Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture avec aujourd'hui des initiales et un acronyme. Non, c'est pas tout à fait pareil. Vous retrouverez Hélène Manarino, HM et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. On va aussi saluer le retour pour une nouvelle saison d'une série culte, La Servante Écarlate. C'est même davantage qu'une série puisqu'elle est devenue un peu partout dans le monde un étendard de la lutte féministe. Notre Infomédia va célébrer une sorte d'anniversaire, le 2000e numéro du quotidien L'Opinion, fondé il y a 8 ans, ce qui est jeune pour un journal papier. Dans ce numéro, une contribution exceptionnelle, un texte du président de la République, Emmanuel Macron. Nous serons justement avec le président de L'Opinion, Nicolas Bétou. Et puis nos invités, la scénariste Alice Tchégaray-Brogno et le comédien Mehdi Nebbou pour la nouvelle série de TF1 HPI, Haut Potentiel Intellectuel, et les femmes de ménage avec un QI de 160, comme Einstein, série largement inspirée par la comédienne Audrey Fleurot, que nous avons également rencontrée. Enfin, Yael, pour son nouveau single et son nouveau clip noir, tiré du dernier album L'Ère du Verseau, à la fois très solaire et très sexe. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, pas mécontente de vous retrouver.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Le dialogue au cœur d'une nouvelle émission sur la chaîne France Info, un documentaire sur le combat d'une lanceuse d'alerte et puis la France critiquée par le Conseil de l'Europe.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard. Qu'ont regardé les Français hier soir?
Top Chef, hein, la cuisine sur M6 toujours en baisse, mais leader quand même, hein, 3 300 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience. Puis c'est TF1 avec sa série The Resident. La moyenne des deux épisodes inédits a attiré 3 millions de téléspectateurs. Exactement le même score que la semaine dernière, 12,6% de part d'audience, même part de marché également. Puis c'est France 2 avec la suite de sa série L'École de la vie qui est en baisse, hein, 2 800 000 téléspectateurs, c'est 500 000 de moins que la semaine précédente, 11,7% de part d'audience. A noter encore un succès pour Arte, le film La Horse avec Jean Gabin a attiré 1 750 000 téléspectateurs, 6,9% de part d'audience.
Il n'est pas sorti cette année ce film.
Culture Média.
Performance d'autant plus remarquable. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, à la une, le lancement aujourd'hui d'une nouvelle émission.
Oui, ce sera cet après-midi en direct sur la chaîne France Info. Parlez-vous, c'est le titre de cette nouvelle émission, un rendez-vous d'échange entre une personnalité et quelques Français. Une personnalité du monde de la culture au sens large, musicien, chanteuse, actrice, écrivain ou encore chef. La gastronomie est culturelle et on le sait bien ici dans Culture ouais. Média. D'ailleurs, le premier invité tout à l'heure sera Pierre Gagnaire. Il répondra aux questions posées par des téléspectateurs via Skype, un format interactif donc auquel croit beaucoup le présentateur de l'émission, Adrien Roard.
Évidemment, sur France Info, on essaye le plus possible de donner la parole aux gens, mais souvent on a une petite musique qui traîne, qui nous dit en gros, ah bah oui, mais toutes ces stars, tous ces gens connus, ils sont inaccessibles et nous, on a envie de changer un peu ça. Ça existe déjà en radio, c'est vrai, il y a des libres antennes et c'est facile et ça fait partie des codes de la radio, mais en télé, c'est moins évident que ça. Grâce au Skype, grâce à toute cette période de confinement qui a ramené finalement la visioconférence et le Skype dans des codes de télé, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était un peu proscrit de prendre des gens en Skype, c'était compliqué, on trouvait ça moche, etc. Et maintenant, c'est rentré dans le code.
Et cela fait même une émission, donc. Pour y participer, il faut envoyer ça ou ces questions sur les réseaux sociaux avec le mot dièse « parlez-vous ». Questions qui seront filtrées, sélectionnées.
L'émission ne fait que 26 minutes, donc on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Moi, je vais choisir après en fonction de ce que les gens ont envie de dire. Voilà, je me dis que deux personnes qui ont envie de poser à peu près la même question, bah évidemment sur les deux, je n'en prendrai qu'une. Mais pour l'instant, très honnêtement, il n'y a pas d'interdit, quoi. Déjà, il n'y a pas de sujet tabou. C'est ce qu'on dit à tous nos invités. C'est-à-dire que les Français peuvent parler de tous les sujets qu'ils souhaitent aborder. Et par ailleurs, même si les Français ne sont pas forcément en Skype et en live avec nous pendant l'émission, toutes les questions qui sont posées à l'écrit aussi sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, là je pourrais moi les lire et m'en faire le porte-parole.
Voilà, Adrien Roard qui ne s'interdit pas lui aussi de poser des questions. L'invité lui pourra avoir une discussion avec les Français qui seront en direct pendant toute l'émission. Parlez-vous, c'est en direct à 16h30 tout à l'heure sur la chaîne France Info, canal 27 de la TNT. Un rendez-vous bimensuel.
Autre lancement aujourd'hui, celui d'une newsletter.
Une newsletter politique en prévision d'une année électorale bien chargée. Elle est baptisée Supplément Politique. Elle est lancée par le Journal du Dimanche qui appartient comme Europe 1 au groupe Lagardère. Elle sera envoyée chaque jeudi matin aux abonnés du journal. mal.
La France épinglée par le Conseil de l'Europe.
Épinglée sur le respect de la liberté de la presse, la France est le pays européen où les journalistes sont les plus harcelés, selon l'organisation, devant la Slovénie, l'Ukraine et la Pologne. En tout, 70 cas de harcèlement ont été recensés en Europe l'an dernier, un record. Record aussi pour le nombre d'agressions physiques, 52, un chiffre qui a doublé en 4 ans. Des résultats donnés hier dans le rapport annuel de la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme.
Et puis le focus programme du jour, c'est un documentaire de France 3 consacré à Irène Frachon.
Oui, Irène Frachon, cette pneumologue brestoise, lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator, médicament nocif des laboratoires Servier, il a fait des centaines de morts. Servier a été condamné le mois dernier à une amende de 2 700 000 euros pour homicides involontaires et pour tromperie aggravée. Il a fait appel. Un procès hors norme, il a duré 8 mois, pendant lesquels Irène Frachon a été suivie par la réalisatrice du documentaire Anne Richard, réalisatrice qui a commencé à filmer cette affaire en réalité il y a 10 ans. Et on voit ces images dans le film, mais jamais elle n'aurait imaginé l'ampleur du scandale. Anne Richard.
Quand je l'ai rencontrée la première fois en juin 2010, on s'est retrouvés un petit peu par hasard pour complètement autre chose. Rien à voir avec le Mediator. Si ce n'est que quand elle m'a raconté son histoire, je me suis dit mais c'est absolument dingue qu'elle soit aussi déterminée et puis de voir ce qui allait se passer. Et moi je ne savais pas du tout si cette affaire allait exploser. Je ne savais même pas si c'était une affaire. Je me disais juste j'ai devant moi une femme déterminée. Et par instinct, par intuition, j'ai envie de suivre et de savoir jusqu'où ça va. Jamais j'aurais imaginé, 10 ans plus tard, être encore là, à documenter ses pas, à l'avoir vu lancer l'alerte, la porter et puis la relayer devant les tribunaux.
10 années durant lesquelles les femmes ont d'ailleurs sympathisé, les deux femmes, la réalisatrice ne s'en cache pas. Elle a d'ailleurs choisi un ton personnel dans son documentaire. Elle utilise la première personne du singulier et tutoie Irène Frachon. Des liens d'amitié donc assumés.
J'étais journaliste au début, j'essayais de comprendre les faits, rien que les faits, j'essayais de voir s'il y allait avoir une affaire. Et puis au fur et à mesure des 10 ans, j'étais convaincue que cette affaire existait, donc je me suis glissée dans ses pas. Et forcément, le regard que je porte sur elle était celui de quelqu'un qui est à ses côtés, dans son intimité, pour comprendre comment une lanceuse d'alerte peut se défaire ou non d'une obsession, enfin de cette obsession-là. Donc oui, j'assume complètement d'être dans son intimité, et je pense que c'est ça ce que je documente désormais, quoi. C'est comment une lanceuse d'alerte peut relayer et avoir espoir en la justice.
Voilà, 10 ans de la vie de cette lanceuse d'alerte à la grande détermination, Irène Frachon, droit au cœur, c'est le titre de ce documentaire qui est diffusé ce soir sur France 3 à 22h30.
Et puis fiction, une première pour une série culte.
Cette série, c'est Urgence. Elle est disponible en intégralité sur une plateforme, Salto, et ce, à partir d'aujourd'hui. Les 15 saisons, donc, réunies sur un seul support, c'est une première.
Et puis le Montreux Comedy Festival a trouvé un nouveau diffuseur.
C'est Canal+, en exclusivité. Une bonne nouvelle pour le plus grand rendez-vous d'humour francophone, qui peut donc espérer avoir lieu en décembre prochain, du 1er au 7 décembre précisément. Alors, cela dépendra aussi de la situation sanitaire. Canal+, remplace le diffuseur historique France Télévisions, qui avait lâché le festival, selon les mots des organisateurs en toute fin d'année dernière. Des organisateurs qui, faute d'argent, avaient alors été contraints d'annuler l'édition prévue ce printemps.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, on va s'intéresser au journal L'Opinion qui publie aujourd'hui son numéro 2000 avec une contribution exceptionnelle, le président. Nous en parlons avec Nicolas Bétou, il est déjà dans ce studio. Il est le président, fondateur et directeur du journal L'Opinion. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.
Ces 30 dernières années, c'est un euphémisme, rares sont les quotidiens à avoir été créés. Encore plus rares sont ceux à avoir duré et à exister encore. Et bien c'est le cas de L'Opinion, journal papier et journal numérique lancé en 2013. Il fête son 2000e numéro, il publie son 2000e numéro tout en le fêtant aujourd'hui. Une étape importante dans son histoire avec un nouveau coup éditorial. Il en a déjà eu quelques-uns en 8 ans. Une contribution exceptionnelle, un texte du chef de l'État Emmanuel Macron. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le président de L'Opinion, vous êtes également le directeur de publication, le cofondateur ou le fondateur. Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien puisque vous êtes à l'antenne chaque matin à 7h50 pour votre édito politique. Donc 2000 numéros, qu'est-ce que vous dites quand vous regardez ce chiffre 2000 ?
Qu'il en reste tellement plus à faire que c'est voilà, un encouragement.
Ah bon, parce que dans l'édito que vous écrivez ce matin, que vous signez, vous parlez d'immense fierté.
Oui, bien sûr, mais je ne veux pas trop la ramener. Une fierté, je vais vous dire, ma principale fierté, c'est l'équipe qui est là et qui a fait avec moi ces 2000 numéros. C'est un travail considérable et surtout... tous ceux qui sont là depuis le début, ils sont assez nombreux, qui avaient quitté leur job à l'époque, qui était job dans des grands groupes de presse, pour venir dans une petite start-up. Ils ont fait un pari, un acte de confiance qui est formidable et que je ressens tous les jours.
Oui, parce qu'à l'époque, il y a 8 ans, on disait déjà que la presse écrite, c'était mort. La
c'était
presse
foutu, papier, c'était bien foutu. Bien sûr, c'était foutu. Il n'y avait, pas d'avenir pour le print, comme on dit. Le digital, le numérique, le web devait tout écraser. Bon, moi, j'avais une analyse différente qui était la suivante, que j'ai surinée des milliers de fois. C'est Internet, c'est l'audience. Et là-dessus, il n'y a absolument aucune contestation possible. Internet, c'est l'audience. Le papier, c'est l'influence. Et je me suis rendu compte très vite que ce que je pressentais était exact. Ce qui est imprimé marque davantage et en tout cas crée un moment d'influence plus facile à repérer. Et c'est comme ça qu'on s'est installé.
Très, très bonne analyse. On va revenir sur la courte et jeune histoire de l'opinion, Nicolas Bétou. Avant ça, on va regarder ce que vous proposez pour ce 2000e numéro. Vous avez demandé à une cinquantaine de personnalités d'imaginer ce que pourraient être les sujets du numéro 3000 en 2025. Et parmi elles, il y a Emmanuel Macron qui signe ce texte, Ma France de 2025. C'est le titre de sa contribution. Que vous dit-il ?
Il dit qu'il a, alors il ne le dit pas aussi brutalement que ça, mais qu'il a envie d'être aux manettes en 2025. Mmh. Et il a, d'abord, je voudrais dire à quel point c'est un honneur pour nous d'avoir réussi à obtenir du chef de l'État qu'il se coule dans l'exercice, pas très simple non plus, hein, de prévoir ce qui peut se passer dans 4 ans. D'ailleurs, il dit, alors j'ai un petit avantage sur les autres, j'ai moins à prévoir, je le cite, ce qui va advenir qu'à projeter une vision, une aspiration. Un petit avantage sur les autres contributeurs. Mmh. Et donc, il nous donne ce qu'il espère être les unes qu'on publiera en 2025 sur la jeunesse, l'industrie, au fond, une façon qu'il a de dire qu'il espère être là pour une renaissance, c'est le terme qu'il emploie.
En même temps, c'est une ébauche de programme qu'il fait là.
C'est une ébauche de programme avec un mot assez élégant et assez étonnant. Je suis un optimiste de la volonté. Et donc, on voit bien que le personnage est tout entier tourné vers ce qui va se passer l'an prochain et ce qui peut se passer dans les 5 années suivantes avec la volonté, il le dit, hein, le retrouver l'esprit de conquête de 2017.
Vous étiez proche à la base. Comment allez-vous obtenir la contribution du président de la République en personne, surtout pour un exercice aussi difficile et qui engage l'avenir, justement, à qui on peut ressortir dans quelques mois, dans quelques années, ce qu'il a écrit précédemment pour vous?
Oui, en demandant, tout simplement. J'allais dire, les choses se sont passées il y a assez longtemps parce que ce genre de numéro, on les voit venir.
Hein. Bien sûr.
C'est assez facile à prévoir. Donc, on a monté cette affaire avec le rédacteur en chef de l'Opinion, Rémi Godeau, qui est vraiment un journaliste formidable et d'une implication totale depuis le début. C'est un des hommes clés de cette aventure. On a fait une liste de souhaits possibles et puis on s'est lancé. On a demandé à Emmanuel Macron, à son équipe. Il a été, ou son équipe en tout cas, a été intéressé par le sujet et cette espèce de petit défi qu'on lançait à tout le monde. Voilà, et on a appris très tard. En fait, on a eu le texte hier après-midi. Au fond, jusqu'à hier après-midi, parce que c'est ça, c'est la loi du genre. Hein. Il n'y a là-dessus aucune critique possible. Nous n'étions pas sûrs de l'avoir parce que le calendrier d'un président, il est évolutif en permanence, il est imprévisible. Je vous donne un exemple. Quand j'ai appris vendredi dernier cet atroce attentat, l'égorgement d'une policière à Rambouillet, je me suis dit, OK, tout est bouleversé pour la semaine prochaine, je ne sais pas comment ça va tourner. Tant pis, on fera sans Emmanuel Macron. Et non, voilà, on a eu la chance de le faire.
Alors, Emmanuel Macron n'est pas le seul à imaginer pour vous ce que sera notre société dans 4 ans. Vous avez également demandé à des grands patrons, à des ministres, à des artistes, contributions qui sont publiées dans un cahier spécial. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Je retiens d'abord que les gens, dans la plupart des cas, alors, je ne vous dirai pas qui, secret absolu, mais certaines contributions ont été, disons, moyenne, et ouais, on les a renvoyés aux auteurs en disant « essayez de retravailler un petit peu ». Alors, il n'y en a pas beaucoup qu'on a renvoyé, mais il y en a. Et là aussi, c'était un exercice, c'est un constat qui est formidable, c'est que ces gens-là, quand ils sont devant une feuille blanche, tout puissants qu'ils sont dans leur métier, ils deviennent plus humbles et ils ont accepté de se remettre au travail pour ceux
tous qui... Personne ne s'est assis sur sa dignité et a dit non, c'est à prendre ou à laisser.
Non, vraiment. Donc, un grand merci à tous, un grand merci individuel et collectif à tous. Ce que j'en ressors, c'est souvent beaucoup d'humour, vraiment, des gens qui se déportent complètement et qui se placent dans des situations assez étranges. pour traiter un sujet dont ils sont chers. Mmh. Je pense à Éric Dupond-Moretti qui nous parle des procès qui sont tous filmés dans 4 ans. Je pense à une des dernières contributions qui nous est arrivée, celle de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui fait un papier sur le fait que La Poste veut lancer un timbre à l'effigie d'Astérix et ça devient un énorme chantier parce que des députés de gauche, d'extrême gauche, commencent à critiquer le fait qu'Astérix, c'est une ode à la grossophobie, la maltraitance des animaux, les sangliers, etc. Et donc, cette affaire devient un buzz incroyable qui fait que La Poste retire ses timbres. Bon, tout ça dit aussi ce que ce ministre et d'autres pensent de la montée de la censure ou la montée de l'autocensure en France, qui est évidemment un sujet très préoccupant. Voilà, j'en retiens aussi deux petits éléments assez intéressants sur le plan politique. Deux contributeurs prennent, trois en réalité, mais ouais. L'un de ces trois-là est Jordan Bardella, ça n'est pas très étonnant, mais prennent l'hypothèse que Marine Le Pen est élue.
Ouais.
Je pense à Manuel Valls en particulier. Il fait un texte dans lequel Marine Le Pen est élue, mais au bout de 4 ans, elle est déjà impopulaire. Mais voilà, ça dit quelque chose. Et par ailleurs, pour le reste, les gens se placent dans un moment où la France aura retrouvé une partie de sa joie de vivre quand même.
Ouais, et la troisième personne qui écrit à ce sujet cette politique fiction et qui voit Marine Le Pen élue, c'est l'une de vos journalistes, Nathalie Segoun, qui imagine ce que serait la France avec Marine Le Pen à sa tête. Elle écrit que Marine Le Pen est remodelée par les institutions et qu'elle n'incarne plus l'extrême droite. C'est une possibilité que vous imaginez, que vous craignez, la victoire de Marine Le Pen ?
Alors, en tout cas, c'est une possibilité. Nathalie Segoun a fait un travail formidable et qui est très compliqué pour un journaliste, c'est de se projeter, de faire des scénarios fiction. Donc elle fait 3 scénarios, hein, la victoire d'Emmanuel Macron, la victoire de Xavier Bertrand, la victoire de Marine Le Pen. Jusque-là, on prend des cartes qui ne sont pas biaisées, elles existent toutes les trois. Mm-hmm. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si vous demandez de but en blanc, qu'est-ce qui est nouveau dans la politique et qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'on peut dire de l'élection présidentielle, ce qui est nouveau, c'est que Marine Le Pen peut gagner l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner. Bien entendu, dans mon esprit, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle gagne. Moi, je dirige et j'ai fondé un journal libéral. Et vous pensez bien que Marine Le Pen n'est pas libérale. Donc, ce n'est pas du tout mon point de vue.
Et pro-européen.
Et pro-européen.
Qui ne réclamait pas le retour au franc du tout.
Et Marine Le Pen n'est pas spécialement pro-européenne. Donc, voilà. Mais elle peut gagner, c'est un fait.
J'ai appris que cette citation n'était pas du président Chirac, mais qu'il l'avait empruntée au physicien danois Niels Bohr. Il est difficile de faire des prédictions, surtout quand elles concernent l'avenir. Ouais. On continue de parler de l'avenir et du quotidien du journal L'Opinion avec son président et fondateur, Nicolas Béthou. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h, Philippe Vandel.
En compagnie de Nicolas Béthou, le président de L'Opinion, qui publie son 2000e numéro aujourd'hui, qu'on peut retrouver en numérique et aussi en kiosque, car c'est un journal papier. C'est aussi pour ça que ça nous fait plaisir d'en parler. Il y a 4 ans, c'était en mai 2017, vous avez publié votre numéro 1000. Et qu'aviez-vous fait alors ? Eh bien, la même chose. Un cahier spécial avec les prévisions de 50 personnalités, différentes ces personnalités de celles que vous avez sollicitées cette fois-ci. Prévisions pour le numéro 2000, donc pour le 29 avril 2021, donc pour aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant de regarder, voir si ils ont donné la bonne météo, ce qu'ils avaient écrit. Parfois, c'est un peu cruel. Il faut dire que l'exercice est difficile. Il y en a qui se sont bien trompés, quand même.
Oui, mais je crois qu'il faut... Moi, je regarde toujours ça avec beaucoup de modestie, parce que...
Vous êtes trop sympathique, alors je vais les citer. Un expert en intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia, qui prédisait l'effondrement du Bitcoin. C'est le contraire qui s'est produit. Le cours s'est envolé. Il a été multiplié par 40 en 4 ans.
Oui, mais j'allais vous le citer parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, un grand banquier de la place, il s'appelle Philippe Brassac, c'est le patron du Crédit Agricole, lui fait la prévision que le Bitcoin va s'effondrer dans les 4 ans. Donc, ça veut dire que c'est toujours dans les charts. Hein. Ouais. Ça veut dire que c'est toujours une possibilité que, en tout cas, le monde de la finance a en tête. Non, ce que je voulais dire, c'est que il nous arrive à nous, rarement bien sûr, il nous arrive à nous, journalistes, de nous tromper aussi dans nos prévisions. Et donc, je suis très, très humble et très indulgent pour ceux qui se sont trompés il y a 4 ans.
Combien de fois j'ai entendu dans les années 80 qu'il n'y aurait plus de pétrole à partir de 2000 ?
Ben voilà.
Et que chacun aurait son avion personnel à partir de 2010.
Exactement.
On attend toujours. Il y a aussi l'économiste Jean-Marc Daniel qui prédisait l'adoption de l'euro par l'Écosse. On n'y est pas. Est-ce que vous allez garder la même idée pour le 3000e numéro de l'Opinion en 2025 ?
Sur l'Écosse, on n'y est pas, mais ça pourrait se faire. Hein. Si l'Écosse vote son indépendance, elle peut très bien rejoindre l'euro en se séparant de la Grande-Bretagne. Est-ce que je vais faire la même chose pour le 3000e anniversaire ?
Déjà, on vous souhaite d'arriver au 3000e numéro.
Merci.
Déjà, c'est la première chose.
Merci. Peut-être qu'on changera de dimension et qu'on demandera, exercice plus difficile, d'imaginer la une du numéro 10 000,
ouais.
Pourquoi pas.
Mais c'est encore plus facile parce qu'en même temps, c'est plus compliqué à vérifier.
On sera
c'est
pas là
c'est l'exercice le plus cruel, je pense, que vous avez fait là.
Ouais.
Une prédiction en 4 ans, c'est très difficile. Ouais. Ça fait donc 8 ans que vous avez lancé l'opinion, Nicolas Bétou. La presse ne se portait déjà pas très bien à l'époque et vous racontez avoir eu quelques difficultés à lever de l'argent, mais vous y êtes parvenu avec un objectif précis en tête. Vous en aviez parlé, c'était sur Europe 1, 5 jours avant la parution du premier numéro en mai 2013.
Ce qui est surtout important, c'est d'arriver à lever suffisamment de capitaux pour tenir 3 ans qui me semble être la durée nécessaire pour arriver à l'équilibre. 3 ans pendant lesquels il faut faire tourner, vivre une rédaction de haut niveau, puisque une des clés du projet, c'est des journalistes de haut niveau qui sont capables de faire de l'information à valeur ajoutée pour sortir d'un espèce d'océan dans lequel vous trouvez à peu près toute l'information, généralement quelconque, et gratuite. Nous, on veut avoir une information typée, avec une ligne éditoriale, de la valeur ajoutée, et pour ça, il faut des journalistes de haut niveau.
Vous vous rappeliez de cet extrait ?
Je me rappelais non pas de cet extrait-là, mais de ce que je disais à l'époque, oui, en effet. Oui.
Donc, cet argent devait vous permettre de tenir 3 ans, ça fait donc 8 ans, l'objectif a été atteint. Ceci dit, est-ce que vous avez eu peur de ne pas y parvenir durant ces 3 premières années ?
Oh, des dizaines de fois, et même après ces 3 premières années, parce que je dois confesser que nous n'étions pas à l'équilibre au bout de 3 ans, nous allons atteindre l'équilibre là. On a eu des aventures et des mésaventures, parce que la vie d'une entreprise, en général, c'est des hauts et des bas, et la vie d'une entreprise de presse, en particulier, c'est des bas et des hauts.
Il y a deux choses que vous disiez, vous avez misé sur des journalistes, des grands
très
professionnels à votre lancement, Ludovic Vigogne pour La Politique, Jean-Dominique Merchet, spécialiste de la défense, Claude Leblanc pour L'International, évidemment la liste est non exhaustive, des signatures, ce choix on le comprend, c'était difficile de faire venir avec vous des gens de ce calibre-là.
Oui, très difficile parce que, encore une fois, ils étaient tous, je le disais il y a un instant, installés dans des rédactions très compétentes, très qualifiées, très reconnues, avec des moyens très importants à leur disposition.
Que vous n'aviez pas. Qu'est-ce que vous leur avez promis pour qu'ils changent de crèmerie, si je puis m'exprimer ainsi?
Plusieurs choses. D'abord l'aventure. L'aventure dans un métier qui se regardait un petit peu dépérir, et ce sont des gens qui ont l'esprit à ça. Deuxièmement, la liberté. Je les ai tous fait venir sur un projet de créer un journal libéral, pro-business, pro-européen, en leur disant, je veux des angles, je veux des... Non pas, je veux pas que vous racontiez l'actualité, je veux que vous racontiez l'analyse de cette actualité.
D'où le nom, l'opinion.
D'où le
parce
nom
qu'on n'a pas encore explicité.
Mais avec une grande liberté. C'est-à-dire que moi, je considère que ces gens-là, qui sont tous, chacun dans leur spécialité, beaucoup plus forts que moi, peuvent apporter ce que la liberté leur donne dans l'exercice du métier. Et puis, je leur donnais la promesse qu'on tiendrait au moins 3 ans. Voilà, ça fait 8 ans que la plupart sont là. Et franchement, je le disais tout à l'heure, une grande partie de ma fierté.
Alors, l'opinion a évolué depuis 2013. Il y a 3 ans, vous avez passé un accord avec le Wall Street Journal pour publier certains de ses articles chaque jour. L'objectif était d'étoffer votre offre éditoriale pour attirer de nouveaux lecteurs et vous permettre d'être rentable. Est-ce que vous l'avez atteint? Pour dire les choses de manière prosaïque, est-ce que l'opinion gagne de l'argent?
Non, l'opinion ne gagne pas d'argent. L'opinion seule, le quotidien, ne gagne pas d'argent, je veux dire carrément, perd de l'argent comme tous les quotidiens pris stricto sensu. En France, tous les quotidiens perdent de l'argent. Simplement, les groupes de presse utilisent la marque pour faire des colloques, des conférences, étendre la marque à d'autres activités qui permettent, dans certains nombres de cas, de équilibrer les comptes. Mais l'activité d'un quotidien stricto sensu, le print, est systématiquement déficitaire, ce qui est notre cas. Nous devions être à l'équilibre ou quasiment l'année dernière, mais je ne vous apprendrai rien en vous rappelant qu'il s'est passé une petite crise.
Il y a eu les gilets jaunes, et avant ça, il y a eu les gilets jaunes.
C'était bon, pour nous, c'était formidable en actualité, mais surtout la crise du
Covid. Oui, mais les kiosques ont été fermés.
Les kiosques ont été fermés, mais en diffusion, en abonnement, c'était formidable. Formidable, non pas la crise,
mais
ça nous a donné beaucoup de matière. Non, l'année dernière, la crise du Covid nous a touché 2 fois. Si vous voulez, dans mon chiffre d'affaires, j'ai à peu près 60% de ventes de contenu. Hein, je produis des articles, des vidéos, des podcasts, etc. Et on les vend. 20% de chiffre d'affaires qui vient de la publicité et 20% qui vient des colloques, conférences, séminaires, etc. Bon, ben, cette dernière activité a été dévastée l'an dernier et la pub a été quand même assez largement touchée. Donc, non, je ne suis pas encore à l'équilibre. Nous avons depuis 18 mois complètement élargi notre base en faisant l'acquisition d'un des plus anciens journaux de la place.
L'AGFI,
voilà. Donc,
j'explique pour les non-initiés, c'est un poids lourd de l'information financière. Le but, c'était lequel ?
Alors, le but, c'était formidablement simple. On avait créé une marque, l'Opinion, qui disait nous produisons de l'information à valeur ajoutée, de l'information générale et politique, et nous avions fait l'analyse qu'il fallait ensuite qu'on descende, qu'on fasse des médias, ce qu'on appelle verticaux, c'est-à-dire des grandes spécialisations. Là aussi, on peut faire payer l'information, et parmi ces médias ultra spécialisés, il y a l'AGFI, information financière, comme vous le disiez, qui est une des plus anciennes marques de France, début du XXe siècle, et que nous avons acquis il y a 18 mois.
Un mot pour finir, une des particularités de l'Opinion, c'est de proposer un dessin en une. C'est le seul quotidien national à le faire avec Le Monde, un dessin de CAC. Pourquoi ce choix ?
D'abord parce que CAC est formidable. Ensuite parce que au début, je vous le dis très rapidement, on n'avait pas de dessin, on avait une photo, c'était assez banal. On a cherché un dessinateur. Un dessin de presse, c'est un éditorial. Et on est tombé... Je l'ai recruté par Internet, CAC. Il faisait un métier très différent. Et puis, il a changé de vie avec nous. Il nous a rejoints. Il est totalement emblématique de ce que nous sommes. Il est libre, il est engagé, il a une vision libérale des choses et il a un talent absolument formidable et il nous aide à faire passer des idées.
Et dans quelle mesure est-il bordé ? Vous avez vu qu'il y a plein de journaux américains qui ont arrêté de diffuser des caricatures parce que ça pouvait heurter tel ou tel et combien même dans un pays étranger.
Mais nous, on est à l'inverse et on veut continuer à publier des caricatures.
Merci beaucoup Nicolas Bétou, vous êtes le président de l'Opinion qui publie aujourd'hui son 2000e numéro. Il est en kiosque et en numérique avec un texte d'Emmanuel Macron et des contributions de 50 personnalités pour savoir à quoi va ressembler, selon eux, selon elles, la France de 2025. Et puis demain, je précise qu'on est au grand chiffre, demain c'est la 400e de Culture Média. On fera appel à personne, on regardera l'équipe. Dans un instant, on va s'intéresser à HPI, qui est la nouvelle série de TF1. Nous en parlons avec le comédien Mehdi Nebbou et la directrice artistique et co-scénariste Asil Tchegaray-Brogno. Culture Média continue. À demain pour la matinale de Mathieu Belliard, Nicolas Bétou.
Merci Philippe Vandel et pour votre anniversaire.
Merci.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média.
Bonjour Alice Tchegaray-Brogno.
Bonjour.
Vous êtes la scénariste, la directrice artistique, la showrunner. Et on vous doit notamment, c'est votre métier, vous doit notamment la série L'Amante, c'est bien
tout
ça, je ne me trompe pas. Mehdi Nebbou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, vous, c'est beaucoup plus simple. On vous a vu dans les films Les Liens du Sang ou Munich de Spielberg, ou les séries Homeland ou encore Le Bureau des Légendes. Et votre actualité à tous les deux, c'est la nouvelle série de TF1. Ça s'appelle HPI. 8 épisodes à partir de ce soir à 21h. HPI signifie haut potentiel intellectuel. C'est celui d'Audrey Fleurot, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais qu'on a rencontré, vous l'entendrez. Tout d'abord, Alice Tchegaray-Brogno, que raconte HPI ?
Alors, HPI, c'est l'histoire d'une mère célibataire qui a 3 enfants, de 2 pères différents et 160 de QI. Il se trouve qu'avec ses 160 de QI, elle est aussi, elle a des petits problèmes avec l'autorité et donc elle a fait plein de petits boulots. Elle n'arrive jamais à garder un boulot plus de 15 jours. Et au début de l'histoire, elle se retrouve à faire donc le ménage dans les locaux de la police et elle fait tomber un dossier d'enquête, met son nez dedans et comme son cerveau ne peut jamais s'arrêter, elle commence à lire et trouver des choses qui ne collent pas dans le chemin qu'a pris la police.
N'en dites pas plus parce qu'on va entendre la bande-annonce.
Déclinez votre identité.
Morgane Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents et haut potentiel intellectuel, HPI.
C'est quoi votre truc ? Vous êtes surdoué ?
Quand je vois une énigme, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix.
Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage ?
Il semblerait que j'ai un problème avec l'autorité.
Emmène-la avec toi.
Je t'emmène où ?
Prends-la avec toi sur l'enquête.
Tu plaisantes, j'espère.
Cette fille a 160 de QI.
Mais je me fous de son QI.
Salut les poulets. Les enfants, je vous présente le commandant Karadec.
Monsieur, il est où votre girafe ?
Tiens, voilà.
Morgane a donc 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI, comme Einstein, le 160 de crédit. Alice Tchegaray-Brogno, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ces hauts potentiels intellectuels ?
Déjà, il y a quelque chose d'un petit peu fascinant, comme un super pouvoir, quoi.
Ouais.
Voilà. C'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps. J'ai grandi avec un père HPI, donc c'est quelque chose qui me touche aussi personnellement. Et j'avais envie aussi de donner un peu une autre image des HPI. C'est-à-dire que souvent, on a des profils HPI Asperger dans les séries. Et j'avais envie de montrer un personnage très fantasque, avec cette pensée en arborescence. sens pas du tout structuré, méticuleux, comme on a pu en voir beaucoup, mais justement le côté bordélique de sa pensée, très envahissante. Voilà.
Alors vous, Mehdi Nebbou, vous n'êtes pas HPI, en tout cas votre personnage, il est flic. D'abord, il est chef ou il est sous-chef ? Parce qu'il est pris entre deux femmes. Il a quand même une supérieure et il a cette fille qu'on lui met dans les pattes.
Il est commandant de police pour la brigade criminelle de la PJ de Lille, mais il a une bosse, ouais, qui est la commissaire, ouais, jouée par la merveilleuse Marie Donardo.
Et vous, comment vous définiriez votre personnage ?
Karalek, c'est un psychorigide, ouais, coincé, qui a peur des femmes, qui a peur de l'engagement, de l'intimité, et qui se planque derrière la façade de son boulot et son autorité et de la fonction. Et puis il est chef de groupe aussi, donc il a des gens sous ses ordres. Voilà, donc c'est un peu ce dilemme, ce contraste entre le masque du type qui a sa vie sous contrôle, et puis derrière ça, un homme en fait beaucoup plus solitaire, beaucoup plus sensible, et beaucoup plus flippé des femmes.
Alors c'est une série sur laquelle la comédienne Audrey Fleurot a mis sa patte, que si je suis bien informé, quand vous lui avez proposé le rôle, c'était un policier pur. Elle a demandé des ingrédients supplémentaires autour de son personnage, notamment de l'humour, et elle a donné son accord à condition de participer à l'écriture. Ça s'est passé comment avec elle ?
Non, il y avait déjà de l'humour dans le texte. Le pilote était écrit tel qu'il est raconté là. C'était surtout sur le polar où on n'avait pas encore abouti sur les enquêtes. Parce que moi, je m'étais surtout acharnée à essayer de créer ce personnage. Et quand on crée un pilote, il y a tellement de choses à mettre en place que c'est un travail difficile. Donc j'avais laissé un peu le polar de côté pour le début. Et effectivement, elle a demandé à ce que le polar soit remonté. Elle avait tout à fait raison. C'était quelque chose qui était en cours. Après, sur la participation d'Audrey au texte, je lui envoie des versions qui sont des versions finales sur lesquelles elle me fait des propositions que j'intègre quand elles sont bonnes. Elles sont souvent bonnes puisqu'elle connaît bien son personnage, elle a de l'humour, ouais. Et donc voilà, il y a sa patte en effet.
Audrey Fleurot, que Louise Bernard a rencontré pour Culture Média, comment voit-elle son personnage de surdoué, comme on disait à l'époque ? Réponse.
J'avais l'impression de ne pas l'avoir déjà vu, ce personnage, et il y avait tous les ingrédients pour que je m'amuse. J'aime beaucoup l'idée d'un personnage qui est fantasque, grande gueule, haut en couleur. Alors elle est totalement rebelle et ingérable, mais je crois que ce qui me plaît le plus, c'est le fait d'être une adulte qui se comporte comme une enfant de 5 ans. C'est un truc qui m'a toujours fait fantasmer quand je vois des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent absolument pas des répercussions de leur comportement, et tout l'entourage passe son temps à rattraper le coup derrière. Donc elle, c'est le cas, elle tape la honte à ses enfants, à ses collègues, mais il y a une liberté qu'on lui envie totalement de pouvoir dire ce qu'on pense, de se comporter comme réellement on en a envie, même si on n'en vit pas son entourage. Quoi. Voilà.
Son entourage, c'est un peu vous, Mehdi Nebbou. Pour ce rôle de flic, vous avez révélé avoir été coaché par un commandant de police de la brigade criminelle et par une commissaire, et je vous cite, je trouvais ça dans Ciné Télé-Revue de mardi, ils ont évité qu'on ressasse les clichés qu'on ne voit en fait que dans les séries. Lesquels ? Quels clichés avez-vous évité ?
Y en a pas mal. Il y a des choses qui se sont intégrées au langage commun qui viennent des séries, mais qui sont aujourd'hui, et particulièrement en France, pas nécessairement réelles, parce que beaucoup de séries de policières sont américaines, ouais, et que c'est pas du tout le même fonctionnement. Et donc, ce qui nous a aidé à travailler avec eux, en l'occurrence Frank Martins, qui est le vrai Karadec, qui, ouais, est le commandant de la brigade criminelle de la PJ de Lille. Il nous a aidé à amener du réalisme en fait.
Oui. Voilà. Comme par exemple, vous avez droit à un seul coup de fil, c'est aux États-Unis mais pas en France.
Non, par exemple.
Ou alors les gens qui disent très bien, vous savez ce que c'est très bien ? C'est la traduction de OK. Mais personne dans la vraie vie dit très bien. Et on dit jamais très bien. Mais ça traduit OK. Ouais. Donc c'est pour ça que dans les séries policières, ils disent très bien. Voilà, il ne faut pas dire très bien. On va continuer à parler. On va entendre un extrait, une séquence avec vous, parce qu'il y a de l'interaction entre ces deux personnages. Oui. Ce n'est pas la glace et le feu, mais quand même, ça se mélange un peu difficilement. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
On parle de la nouvelle série de TF1 qui démarre ce soir, 8 épisodes, ça s'appelle HPI, ça signifie haut potentiel intellectuel. On en parle avec la showrunner, c'est comme ça qu'on dit maintenant, Alice Tchégari-Bruno, et le comédien Mehdi Nebbou. Un mot sur l'enquête quand même du premier épisode, vous enquêtez sur un meurtre et sur une disparition. Mehdi Nebbou, vous avez une séquence savoureuse avec Audrey Fleurot, c'est à l'occasion d'une perquisition dans un cabinet d'avocats, je vais essayer de résumer. Juste avant que ne commence la perquise, elle a récupéré une enveloppe, mais
comme elle n'est pas mandatée, c'est une civile, elle est femme de ménage, à récupérer quoi que ce soit, parce qu'elle n'a pas d'existence officielle, ça pose un problème. 12 dialogues, dans un endroit incongru, vous êtes en train de vous laver les mains quand elle débarque dans les toilettes.
Regardez que je vous appelle.
Mais qu'est-ce que vous foutez ici?
Quoi là, aux chiottes? Bah, vous vous lavez les mains 20 fois par jour. Ah, parce que vous pensez que vos petites manies passaient inaperçues?
De quoi je me mêle? Qu'est-ce que vous foutez dans ce cabinet d'avocat?
Regardez, j'ai trouvé la lettre de votre Sarah dans le coffre de Jeanne.
Vous êtes entrée dans son bureau?
Oui, bah oui.
Oh la conne. Vous avez aucune idée de la gravité de ce que vous venez de faire.
Mais lisez-la, cette lettre! Sarah aussi s'est fait agresser par Philippe Leroux. Un vrai DSK, le mec. Et vous savez ce que je pense? Votre avocate, eh ben, elle avait changé d'avis. Elle voulait plus défendre un salaud. Mais lisez-la, je vous dis!
Laissez-moi! Laissez-moi réfléchir, c'est bien de réfléchir! Ok, commencez par enlever ça. Donnez-moi ça.
Ah bah ça va, elle va pas vous bouffer.
Vous avez laissé vos empreintes dessus, vous savez ce que ça veut dire? Allez, mettez-vous dans les toilettes.
Quoi?
Allez, rentrez là-dedans. Hein? Vous ne bougez pas tant que la perquisition n'est pas terminée.
Putain, je rêve, je lui amène un truc énorme, il m'enferme dans les chiottes.
C'est vrai que c'est pas commun. L'influence d'Audrey Fleurot est allée au-delà du scénario, parce que dans une interview, elle a révélé qu'elle a demandé à ce que ce soit vous qui incarniez le flic Adam Karadec. Vous confirmez, Mehdi Nebbou?
Oui, tout à fait. Enfin, l'idée est venue à... Il y a eu un croissement, c'est ça, Alice, hein?
Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'était aussi l'idée des producteurs, et ton nom a été là tout de suite. Ouais.
Voilà. Donc, ils ont proposé de leur côté, et Audrey a apprécié l'idée. Mmh. Et quand j'ai su que c'était avec Audrey, je me suis dit, c'était une raison de plus d'avoir envie de faire ce duo.
Il y a une grande part d'impro, oui, dans ces tournages.
D'écriture et d'impro.
Avant d'avoir la réponse de comment se passait le tournage, on va entendre Audrey Fleurot, où on découvre justement qu'elle a donné une large part à l'improvisation.
Quand je tourne, et là spécifiquement HPI, j'essaye d'être dans un état d'inventivité permanente et un peu de déconnade permanente pour essayer de trouver des choses dans le décor avec mes partenaires. Donc j'ai jamais eu la possibilité d'improviser autant. Les choses sont écrites, hein, bien sûr, mais j'ai une marge d'intervention qui, à mon avis, nécessaire pour ce personnage. C'est dans l'instant, qu'est-ce que je vais trouver à faire comme connerie. Enfin, je l'ai ramené à mon humour. J'ai injecté des choses qui, moi, me font marrer. Maintenant, j'espère que ça fera marrer les gens, quoi. Là, j'ai un peu les chocottes, en fait.
Alors, Audrey Fleurot a un peu les chocottes. Pour info, HPI a démarré qu'une semaine d'avance en Belgique sur la RTBF, la télévision publique belge. Vous connaissez les chiffres?
Oui.
Les deux premiers épisodes ont cartonné. 33,2% de PDA, ça veut rien dire. C'est juste le meilleur démarrage pour une série sur la RTBF. Et pour vous aussi, il y avait une grosse part d'impro?
Bah oui, parce qu'en fait, ce qui est plaisant avec Audrey, et d'abord on se connaît depuis 12 ans, donc il y a une affinité, il y a une envie de jouer. Je me souviens de cette phrase où elle disait: j'aimerais bien qu'avec mon partenaire de jeu, je puisse lui coller un chewing-gum dans les cheveux sans que ça l'énerve.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est très nourricier, mais en fait c'est un vrai travail d'équipe à HPI, autant au niveau de l'écriture que des producteurs. Que des partenaires, que de la troupe, Bruno Sanchez, Bénédicte,
Bérangère MacNeys.
Voilà, exactement, Bérangère MacNeys, les producteurs, donc Pierre Logier, Bérangère et Anthony Lancré. Tout ça a fait qu'on s'est senti libre.
Bon, vous avez cité tous vos potes.
Oui, monsieur.
Non, j'en ai encore plein. Tous mes amis scénaristes.
Dans le premier épisode, j'ai pas vu tous les épisodes. Dans le premier épisode, il y a une séquence pas politiquement correcte. À un moment donné, Audrey Fleurot se met des baguettes dans la bouche et elle imite l'accent chinois, du genre t'aimes pas les nems. Et sa fille lui réplique « trop drôle, la blague raciste ». Ça va plus loin encore, au fil des épisodes, dans le non politiquement correct.
Elle est politiquement incorrecte, oui, c'est sûr. Et elle se fout du regard des autres, donc il y a quelque chose... Oui, elle est très libre.
Ouais. Il y aura une saison 2. Si on comprend bien Audrey Fleurot, il paraît qu'il y aura une saison 2.
Alors, moi je suis en cours d'écriture, hein, évidemment. D'accord. On n'a pas la confirmation, mais on fait tout comme si.
D'accord. La série a vraiment séduit la presse. Le Parisien fait une pleine page ce matin, vous l'avez vu. Un petit bémol dans Télérama qui salue l'idée, qui salue l'énergie, qui salue le casting, mais qui regrette la réalisation factice. C'est Isabelle Poit qui écrit « Le Nord n'a jamais été aussi ensoleillé. Les locaux nickel de la PJ sont éclairés comme un showroom. » Alice Tchégaray-Brugnot, que lui répondez-vous?
Alors sur les quatre premiers, on a tourné en plein hiver et tout. Moi, je trouve qu'on voit vraiment le Nord. Il y a des boiseries partout, il y a une couleur, une ambiance.
Il fait tous les jours soleil. C'est peut-être un cliché.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Sur le second bloc, donc sur les épisodes 5 à 8, effectivement, on a tourné en septembre et il faisait beau. On a été à la plage, on a eu beaucoup de chance sur le temps, en effet.
Et sur l'esthétique, ouais. Les locaux de la PJ filmés comme un showroom et non pas comme dans les séries policières qu'on est habitué de voir avec un petit peu de la poussière et de la crasse partout.
Oui, bah c'est vrai que on a tourné dans les anciens locaux de Sciences Po à Lille. Ouais. C'est vrai que c'est un beau décor. C'est vraiment un beau décor. Maintenant, je ne trouve pas non plus tout coloré dans tous les sens, quoi. Il y a quand même une recherche de réalisme dedans. Et d'ailleurs, on a pris les locaux de Franck Martins, le consultant flic. On a un peu imité ouais. ce qu'il y avait au mur, etc.
Vous êtes un peu tout dégueulassé, si j'ose dire. La suite pour vous, Mehdi Debbouze. Avant qu'on parle de la suite, un mot, parce que vous venez de tourner à Rome sous la direction de Ridley Scott, excusez du peu, avec Al Pacino, excusez du peu, bis. Racontez, c'était quoi ce tournage? C'est quoi ce film?
C'est un film sur la famille Gucci, donc la grande marque de vêtements. Et c'est un drame shakespearien au sein d'une famille, les rivalités, les combats de pouvoir. Et voilà.
Mais c'est comment de tourner avec Ridley Scott et avec Al Pacino? C'est ça qu'on a envie de savoir.
Bah, Ridley Scott, c'est quelqu'un qui vous met tout de suite très à l'aise. Donc on se sent très libre avec lui, ce qui est quand même un vrai cadeau venant d'un réalisateur ou d'une réalisatrice quand on se sent libre. Mmh. Pacino, bah, j'étais comme un gosse. J'avais 5 ans et je rencontrais le Père Noël, quoi. J'avais les zygomatiques qui collaient à mes oreilles. Je n'arrivais pas à m'empêcher de sourire. Et il est très chaleureux en plus. Et lui aussi, il vous met à l'aise. Je pense qu'il est un peu obligé, vu son aura de détendre ses partenaires de jeu.
Ouais.
Et puis très généreux, très impressionnant. J'avais du mal à me concentrer, j'avoue. Hein, parce que quand il jouait, j'arrêtais pas de me dire « Putain, mais c'est Pacino,
c'est Pacino.
C'est Pacino, mon gars. C'est Pacino. Et putain, il te regarde.
Voilà. » Vous incarniez qui? D'abord, c'était en quelle langue? Parce que je sais que vous avez tourné en allemand. Vous parlez allemand.
Je parle allemand couramment, ouais. Non, là, c'était en anglais.
Ouais.
Eux, ils jouent en anglais, mais avec un petit accent italien, ce qui est étonnant au début, parce qu'il ne faut pas que ça soit ridicule non plus.
Ouais.
Et donc, c'est risqué. Et c'est en anglais, ça se passe, la plupart du tournage se passe à Rome. Et c'est un cadeau dans la vie d'un acteur de pouvoir rencontrer une légende pareille. Donc merci la vie, quoi.
Merci beaucoup. Et ensuite, prochain projet, vous savez déjà ou pas?
Oui, un long métrage. Je joue un papa avec son fils adolescent qui est plutôt dépressif et qui vont faire une rando de 12 jours dans la montagne avec un âne.
Avec un âne encore?
Oui.
Parce que vous avez eu d'avoir un César vous aussi alors.
Oui, c'est ça.
Alice Chegaray Bruno, prochain projet, l'écriture de HP1, la saison 2 ou encore autre chose?
Alors,
HPI, pardon, j'ai dit HP1. HPI.
Oui, c'est pas. L'écriture de la saison 2, effectivement, m'occupe pas mal.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été tous les deux avec nous. Alice Chegaray Bruno, showrunner, et Mehdi Debbouze, comédien. Je rappelle, la nouvelle série de TF1 HPI, ça signifie haut potentiel intellectuel. 8 épisodes. Ça démarre ce soir à 21h sur TF1 et il y a 8 épisodes. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour le zapping du lendemain avec un doc français fraîchement oscarisé et Bertrand Chamerois pour son écran de veille fraîchement vacciné. Notre invité, c'est une artiste unique en son genre, c'est la chanteuse Yel pour son album L'ère du Verseau et puis dans Les Indispensables, le retour de la servante écarlate et un roman social. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.